Bonjour à tous, chers fidèles d'IDFM, c'est Didier pour un nouveau rendez-vous compte, comme chaque jeudi à 18h. Aujourd'hui, un rendez-vous compte où il sera question de mystère, de romans feuilletons et de droits de l'homme. Rendez-vous compte. Je reçois aujourd'hui Madame Geneviève Cadit, qui est présidente de l'association Les Arts s'enchaînent de Saint-Brice-sous-Forêt, et Monsieur Jean-Claude Vitran, qui est passionné de littérature et de droit humain, ce qui, en principe, devrait toujours être synonyme. En tout cas, aujourd'hui, ce sera le cas. Bonjour Geneviève.
Bonjour.
Et bonjour Jean-Claude.
Bonjour.
Alors Geneviève, vous êtes venue ici parce que vous avez été responsable d'un salon. Vous pouvez nous en dire plus?
Ah oui, alors ce salon existe depuis 3 ans. Il est à l'initiative de l'association Les Arts s'enchaînent, qui a été créée en 2010. Donc l'objectif de cette association, c'est de favoriser les pratiques artistiques, dessin, écriture principalement. On a aussi un atelier lecture. L'idée, c'est aussi de permettre à ces pratiques artistiques de se croiser et éventuellement de trouver des sources d'inspiration dans le patrimoine culturel de la ville.
Saint-Brice, il faut le
Saint-Brice
dire.
Saint-Brice sous forêt.
Il oui, faut voilà. dire Saint-Brice. Oui.
Voilà. D'où l'idée de créer ce salon il y a 3 ans, qui permet à la fois de faire se rencontrer la littérature et les arts plastiques.
Alors littérature, il va en être question justement. Jean-Claude.
Oui, tout à fait. Et on va parler d'Eugène Sue.
Voilà, Eugène Sue. Oui, Eugène Sue, grand écrivain français
oui.
du 19e. Un petit peu peut-être oublié aujourd'hui.
Un peu beaucoup.
Un peu beaucoup. Mais alors que pourquoi est-ce que vous l'avez mis à l'honneur de votre salon, Geneviève?
Eh bien, en fait, depuis qu'on a commencé à réfléchir à ce salon, nous sommes rendus compte que la ville de Saint-Brice-sous-Forêt avait énormément de personnalités littéraires qui avaient vécu à Saint-Brice ou qui étaient venues en villégiature à Saint-Brice. La première année du salon, 2023, nous avons mis à l'honneur Paul Éluard, qui a habité 2 ans à Saint-Brice, de 1922 à 1924. Et il se dit que c'est dans la maison qu'il a habité que le mouvement du surréalisme aurait été créé. L'année dernière, nous avons mis à l'honneur Edith Wharton, écrivaine américaine, qui habitait 17 ans à Saint-Brice, qui a une ville, qui a une rue qui porte son nom. Edith Wharton était la première femme à obtenir le prix Pulitzer en 1922. Et donc cette année, nous avons choisi de mettre à l'honneur Eugène Sue, qui a habité Saint-Brice. Ça, on le sait récemment. On savait qu'il avait séjourné à Saint-Brice, chez sa sœur. Mais on ne savait pas, on n'avait pas de certitude sur le fait qu'il ait pu avoir une maison et qu'il ait pu habiter d'une manière régulière à Saint-Brice.
Voilà. Habitant d'honneur maintenant, donc, de votre ville. Jean-Claude, quelques mots sur Eugène Sue?
Ben, Eugène Sue, c'est un personnage tout à fait paradoxal. C'est un personnage qui est né dans une famille riche, on va dire, une famille proche de la bourgeoisie, enfin bourgeoise, mais proche de l'aristocratie plutôt, puisque le grand-père était déjà chirurgien de Louis XV, le père était chirurgien de Napoléon Ier et ensuite de Louis XVIII, et le fils, donc Eugène Sue, a aussi été chirurgien. Mais il a tourné Kazakh à un moment donné de son existence en s'apercevant des inégalités de la société. Et il est devenu député socialiste, libre penseur, etc. Alors moi qui ne connaissais pas du tout le personnage, mais qui suis un fervent défenseur des droits de l'homme, pour moi c'est un personnage extraordinaire sur lequel je me suis penché avec beaucoup d'intérêt.
Alors, il est devenu, effectivement, comme vous l'avez dit, député républicain, voire même socialiste.
Socialiste.
Ouais. En 1850.
Absolument.
Mais l'année d'après.
Ah bah, l'année d'après, Napoléon Ier, Napoléon III, du moins. Enfin, Napoléon, le neveu de Napoléon Ier, plutôt, décide son coup d'État.
Du 2 décembre.
Du 2 décembre. Et à ce moment-là, Eugène Sue décide de partir en exil. Il est arrêté tout d'abord, mais il faut pas oublier qu'un petit détail sur lequel je reviendrai tout à l'heure, c'est que il était quand même le filleul de Joséphine de Beauharnais et de Jérôme de Beauharnais.
Ça aide. Peut-être.
Donc ça aide. Donc Napoléon III, l'oncle, était quand même un petit peu en difficulté par rapport à lui. Et au moment où il a été arrêté, il a été élargi très très vite. Mais comme il était en désaccord complet avec la politique menée par Napoléon III, eh bien, il a décidé de s'exiler. Il est parti s'exiler dans les États de Savoie, qui à l'époque n'étaient pas français.
Voilà. Donc déjà, c'est un parallèle assez évident avec un autre grand écrivain qu'on va retrouver un petit peu plus tard, bien sûr. Ils ont un destin un petit peu parallèle et une œuvre un peu parallèle aussi, on pourrait dire.
Oui, enfin, d'après ce qu'on en sait, et Geneviève m'en parlait tout à l'heure, on pourrait penser que Les Misérables ont été écrits parce que Les Mystères de Paris ont été écrits.
Voilà, ouais, on va y revenir.
C'est apparemment, c'est ce que j'ai pu lire. C'est ce que j'ai pu lire dans la genèse des Mystères de Paris, écrit par un représentant de l'Académie Goncourt, et qui explique un peu à l'époque, quand Les Mystères de Paris ont eu le succès qu'on lui connaît, Victor Hugo en a pris ombrage, et donc lui aurait donné l'idée aussi de créer les Misérables.
20 ans plus tard.
20 ans plus tard, oui.
Alors justement, on va plutôt s'intéresser donc à l'œuvre la plus connue de Gensu, c'est Les Mystères de Paris. Alors, qu'est-ce que c'est que ces mystères de Paris ?
C'est extrêmement compliqué de parler de l'histoire des mystères de Paris, tellement c'est nébuleux, tellement c'est touffu, tellement c'est important.
1400 pages.
Oui, 1400 pages. Et puis, en plus de ça, c'est un feuilleton. C'est-à-dire qu'il a été écrit chaque semaine. Notre ami Eugène Sue avait des difficultés financières. En 1800, il était très riche, à la mort de son père en 1830, mais en l'espace de 7 années, il a mangé l'héritage.
Mangé, bu, et puis bien profité, on va dire.
Vous savez que, et puis avec un certain nombre de conquêtes, voilà. On l'appelait le beau Su.
Le beau Su,
c'était pas mal.
Pas mal. Ouais.
Donc, à un moment donné, vers 1837, au moment d'ailleurs où il a habité à Saint-Brice. En 1837, il a fallu qu'il gagne sa vie, alors qu'il était quand même chirurgien de marine. Je pense qu'il avait une très bonne situation, mais qui ne lui convenait pas. Donc, il était très intéressé et par la littérature et par la peinture. Il s'est commis à faire quelques tableaux, mais qui n'ont pas eu beaucoup de succès. Mais la littérature, oui. Et là, il était payé à la ligne. Donc, en tant que feuilletoniste, il fallait qu'il délaye. Et Les Mystères de Paris, c'est ça, en fin de compte.
Voilà, c'est l'apogée de la presse populaire et du roman feuilleton.
Voilà,
qui tenait en haleine les lecteurs, qui achetaient donc le journal à chaque fois. Et donc,
et puis à chaque fin, il y avait un suspense.
Bien sûr, rebondissement.
Et c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué. De faire une histoire des mystères de Paris, parce que c'est tarabiscoté, si je peux employer cette expression.
Bien sûr.
On a une personne qui va intervenir dans notre salon qui s'appelle Véronique Puyaret, et qui, en fin de compte, a fait une animation en 40 exemplaires des mystères de Paris. Et là, si les gens veulent savoir, il suffit d'aller sur Internet, rechercher Les Mystères de Paris et ils trouveront, c'est extraordinaire.
Alors, et puis il y a aussi elle a fait un blog ou un site où elle a rassemblé toute la documentation qu'elle a pu recueillir dans ses recherches sur Eugène Sue et sur Les Mystères de Paris. Donc c'est vraiment une œuvre protéiforme.
Voilà, on mettra le lien vers ce blog sur la page de notre podcast.
Absolument.
Voilà. Alors quand même, c'est une histoire, il y a quand même une histoire entre un jeune homme et une jeune fille.
Pour reprendre l'histoire, en fin de compte, c'est l'histoire de Rodolphe. Rodolphe de Gérostam, qui au départ n'est pas connu, enfin est connu sous ce nom-là, mais pas connu sous le fait qu'en fin de compte, il est milliardaire de naissance, puisqu'il est le prince d'une principauté allemande. À l'époque, l'Allemagne n'existait pas. Et il se transforme en ouvrier, et il va dans les bas-fonds parisiens et dans les bas-fonds de la banlieue, puisque à l'époque, Paris était petit, Montmartre était un village, tous les villages autour, c'était la banlieue, et c'était, on peut dire, les bas-fonds. Donc il se transforme en ouvrier, et il va, à l'intérieur de ces villages, rencontrer tous les problèmes. Et il tombe sur une jeune fille, la Goualeuse, qu'on appelle
Fleur de Marie, Joli nom.
Oui, enfin, et dont on saura par la suite que c'est pour ça que c'est assez extraordinaire, qu'on saura par la suite, mais tout à la fin, pratiquement à la fin, que c'est sa fille qu'il a eue 20 ans plus tôt, enfin, etc., etc., etc. Ouais. Etc. C'est assez...
Le mélodrame un petit peu, mais bon.
Voilà, assez succulent. Oui. Et donc, il se fait passer pour essayer de lutter contre les inégalités de l'époque.
Voilà. C'est toujours le principe de quelqu'un d'extérieur à ce monde-là va s'introduire, regarder et témoigner pour les lecteurs qui, effectivement, ne connaissent pas forcément les bas-fonds et la misère.
La misère, exactement.
Madame la misère, écoutez le vacarme que font vos gens, le dos voûté, la langue au pas. Quand ils sont assoiffés, ils se saoulent de larmes. Quand ils ne pleurent plus, ils crèvent sous le charme de la nature et des gravats. Ce sont des suppliciés au ventre translucide qui vont sans foi ni loi, comme on le dit parfois, régler son compte à Monseigneur éphéméride qui a pris leur jeunesse et l'a mise en séride. Quand il ne leur restait que ça, Madame la misère, écoutez le tumulte qui monte des bas-fonds comme un dernier convoi. Traînant des mots d'amour, avalant des insultes et tenant par la main leurs colères adultes afin de ne les perdre pas. Ce sont des enragés qui dérangent l'histoire et qui mettent du sang sur les chiffres parfois. Comme si l'on devait toucher du doigt pour croire qu'un peuple heureux rôtant tout seul dans sa mangeoire.
Nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte où je reçois Madame Geneviève Cadit, présidente de l'association Les Arts s'enchaînent de Saint-Brice-sous-Forêt, et Jean-Claude Vitran qui nous parle de l'écrivain Eugène Sue, auteur des Mystères de Paris. Eugène Sue qui sera honoré au Salon du Livre et du Dessin qui se tiendra le samedi 5 octobre à Saint-Brice, où Eugène Sue a vécu plusieurs années.
Alors ce qui est curieux, c'est que je voudrais juste rajouter une petite anecdote, c'est que parmi les personnages de l'œuvre de Eugène Sue, il y en a un dont le nom est devenu, pratiquement un adjectif, Pipelet.
Pipelet.
Voilà, c'était
Madame Pipelet et Monsieur Pipelet.
Voilà, et c'est devenu effectivement
un nom commun maintenant.
Voilà. Oui, enfin qu'on n'emploie plus beaucoup quand même.
Plus beaucoup, mais enfin nous on connaît.
Oui, nous on connaît. Nos générations.
Alors bien sûr, donc Fleur de Marie a une existence marquée par la misère, par la déchéance, on pourrait dire.
Absolument.
Et Rodolphe va la protéger.
C'est ça.
Contre quelques ennemis redoutables.
Donc le chouineur.
Ouais.
Et en fin de compte,
qui veut dire celui qui n'hésite pas à utiliser la lame du couteau.
La lame du couteau, voilà. C'est ça. Et en fin de compte, il va l'emmener. Alors c'est assez drôle d'ailleurs, parce qu'il va l'emmener chez une personne qu'il connaît bien, à Bougval, là où il est né.
Voilà.
Là où il a vécu quand il était enfant.
Eugène Sue. Ouais.
Donc,
puisque son père avait un château,
voilà.
C'est ça.
Et donc, d'ailleurs, son père est enterré à Bougval.
D'accord.
Il y a toujours sa tombe. Le château a été détruit, mais la tombe du père de Eugène Sue est toujours là.
Donc, finalement, le fameux Rodolphe, prince allemand, qui découvre la misère du peuple, c'est un peu Eugène Sue.
Oui, c'est lui.
C'est un petit peu son image.
Oui. Moi, je pense que c'est lui. Enfin, dans l'esprit de la littérature qu'il a écrite, c'est lui.
Mais finalement, malgré toute cette protection de Rodolphe, que va-t-il arriver à Fleur de Marie ?
Si on veut aller directement à la fin, Fleur de Marie disparaît rapidement parce que Fleur de Marie, le père, donc il comprend à un moment donné que effectivement c'est sa fille, que il l'emmène avec lui. Quand à la fin, il l'emmène avec lui dans sa principauté, et elle ne peut pas vivre comme ça, donc elle rentre dans la religion, et malheureusement, elle décède au moment où...
Dans un couvent,
voilà.
Donc finalement, quelqu'un du peuple, malgré les efforts qu'on peut essayer de sortir de ce milieu, n'y parvient pas.
C'est une fin
un peu pessimiste.
C'est un petit peu... Ben c'est ce qu'on peut en ressortir, effectivement.
une sorte de fatalité de classe.
Mais en même temps, à l'intérieur, il y a tellement de personnages qu'il y a quand même des personnages qui sortent. Oui. Par exemple, le Schooner, qui achète une ferme en Algérie, il devient quand même quelqu'un qui sort de sa condition, si vous voulez.
Voilà. Il y a quand même quelques espoirs, mais pas pour l'héroïne, on va dire.
Pas pour l'héroïne.
Alors donc, c'est quand même c'est l'œuvre la plus connue de Gene Sue, peut-être, à l'époque. Un succès énorme.
Ah oui, complètement.
Énorme. Et international, d'ailleurs.
Oui.
Hein, européen, etc. Oui.
Il y a je ne m'en rappelle plus du nom, mais je crois que c'est Alexandre Dumas qui dit que même les malades n'ont pas voulu mourir tant que le feuilleton n'était pas fini.
Pas mal. Comme thérapie, c'est pas mal.
Ouais. Voilà. Ils ont été amis. Hein,
Bien sûr. Voilà.
Et donc Alexandre Dumas a écrit sur Gene Sue une sorte de biographie par rapport à des choses qu'il a vues, qu'il a observées.
Le beau Sue.
Voilà.
Alors, il a écrit un autre roman que je connais très mal par contre, alors ne me demandez pas trop, c'est Le Juif Errant, qui a eu aussi beaucoup de succès, qui était aussi en feuilleton.
Inspiré par un épisode de la Bible,
c'est ça.
Mais transposé, disons, l'époque de Gene Sue, avec une portée morale aussi, oui. Alors c'est quand même, on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment la popularisation du roman feuilleton dans la presse, et ça permet à beaucoup de gens qui n'avaient pas l'habitude d'acheter des livres, de lire justement, et donc d'entrer en littérature. Hein, c'est quand même
c'était vraiment un des rôles.
Et puis bien sûr, naissance du roman social.
Oui, absolument.
Oui, complètement.
Et donc, qui dénonce la misère, enfin d'abord qui montre la misère, les injustices, les conflits de classe, et il est influencé par les idées socialistes de Fourier.
Mais c'est ça.
Et donc
Fourier, Proudhon, des gens comme ça, effectivement.
Les premiers socialistes, on va dire, français, bien avant Karl Marx.
Absolument. Enfin, bien avant, en même temps, parce que Karl Marx est sorti en 1840, Karl Marx, on commence à parler de lui.
Oui.
On commence à parler de lui, effectivement. Mais je ne pense pas qu'il y ait une relation entre Eugène Sue et Karl Marx.
Non, je ne pense pas. Alors, quoique les gens ne savent pas, mais Karl Marx a vécu à Enghien-les-Bains.
Absolument.
Pas à Saint-Brice.
Non, pas à Saint-Brice, mais à Enghien-les-Bains. Ouais. C'est quand même marrant, finalement.
Pas très longtemps.
Hein, voilà. Donc, c'est la littérature qu'on appelle engagée. Engagé dans la lutte. Et bien sûr, il va inspirer des auteurs comme Balzac et puis Zola.
Zola complètement, oui. Zola.
Le roman naturaliste. Et donc, mais aussi Victor Hugo.
Ouais, c'est vraiment toute une mouvance.
Voilà. Il a un peu devancé, il est un petit peu le père, entre guillemets.
C'est le point de départ, à mon avis, de cette littérature. C'est le point de départ de cette littérature. Malheureusement, je vais vous lire, si vous voulez bien, le premier texte de Jean-Louis Bory, qui a écrit une très très belle biographie de Gene Sue. La littérature bien méprise Gene Sue. Gene Sue n'est pas un écrivain. Style négligé, incorrect, et quand il n'est ni l'un ni l'autre, affecte, selon Barbet d'Aurevilly, Sue travaille pour la littérature à 4 sous avec un badigeon grossier et voyant. Il œuvre pour le gros public. voilà ce qu'on disait de lui à l'époque.
Voilà, c'est ça.
En fait, il écrivait, d'après ce que j'ai pu lire, apparemment, il écrivait un peu comme on fait avec l'écriture automatique. C'est-à-dire, comme il était tenu à produire un certain nombre de lignes
comme
pratiquement
Balzac.
Tous les jours, donc il écrivait. Mais apparemment, lui, il n'avait pas de nègre, enfin, ce qu'on appelle les... Des co-auteurs de l'ombre.
Oui.
Mais oui, apparemment, il écrivait comme ça, d'une manière, automatique.
Comme les premiers surréalistes qui ont peut-être créé le surréalisme à Saint-Brice. Voilà.
La boucle est bouclée.
Alors, effectivement, c'est quand même la grande époque du roman réaliste, avec Balzac, évidemment, ou naturaliste avec Zola. C'est toujours le même principe, c'est-à-dire qu'on observe des milieux que les lecteurs ne connaissent pas forcément. Et on va vraiment à fond, quoi. On ne cherche pas à enjoliver, c'est plus le romantisme, quoi. Hein, on ne cherche pas à des personnages.
Non. On cherche à dire la vérité, à ce qui se passe réellement. Ouais. Oui.
Alors, bien sûr, on l'a un peu dit, ce roman de Gene Sue, Les Mystères de Paris, publié en 1842-1843, ont fortement inspiré Victor Hugo avec Les Misérables. hein, qui ont été publiés en 1862, donc 20 ans après. Et que Victor Hugo a rédigé dans son exil à Guernesey. Hein, donc voilà.
Un peu la même histoire.
C'est la même. Alors justement, Les Misérables et Mystères de Paris, c'est pratiquement la même histoire.
Oui, c'est la même histoire.
C'est la même histoire, hein, avec des personnages. Bon, on peut rappeler hein, le personnage de Rodolphe chez Eugène Sue. Donc c'est. Alors par contre, oui, Rodolphe était un noble, hein, un aristocrate de haut rang.
Un vrai, oui.
Un vrai de vrai. Alors que le héros de Victor Hugo, Jean Valjean, c'était c'était pas le contraire. C'était le contraire.
C'est le contraire.
Ah, c'était le contraire. Un homme du peuple. Condamné au bagne pour avoir volé un pain pour l'offrir aux enfants de sa famille. Voilà. Donc ce n'est pas, c'est pas un gentilhomme, mais quand même, tous les deux vont découvrir la misère, hein, notamment à l'aide d'un personnage féminin qui est un peu le double de Fleur de Marie.
Fleur de Marie, effectivement.
Et donc Fantine, qui est la mère de Cosette. Hein, Cosette là, Fantine qui pour survivre est prostituée, qui va vendre ses dents et qui va finir par.
Et quand on sait que Fleur de Marie elle a perdu une dent parce que sa maman adoptive lui a cassé. Ouais. Donc là on a quand même des similitudes, des analogies qui sont assez curieuses.
Ouais. Et puis Fantine va mourir après avoir confié Cosette à Jean Valjean.
Ouais,
voilà. Donc c'est Rodolphe et Jean Valjean sont quand même pratiquement des doubles et ils vont traverser donc Paris.
Hein. Oui.
Et puis par contre, la différence c'est qu'à la fin, Cosette va être sauvée. Elle va échapper à son destin. Elle va avoir une bonne éducation. Elle va épouser le beau Marius. C'est pas le bossu, mais le beau Marius. Et elle va réussir dans le monde. Quoi.
La fin des Mystères de Paris est moins bonne que la fin des Misérables.
Ah, mais je pense que, comment dire, Victor Hugo, il a eu plus de temps pour y réfléchir. Autant Eugène Sue lui écrivait un petit peu d'une manière rapide. Alors que Victor Hugo, je pense que lui,
il était pas feuilletoniste.
Voilà, oui. Puis là, il a pu peaufiner son histoire.
Oui, bien sûr. Il avait le temps en exil, voilà, de toute
ça.
façon.
Ça n'a pas été la même approche de travail.
Et puis finalement, Victor Hugo a une vision un petit peu de rédemption de la misère par une possibilité d'ouverture. Les classes populaires peuvent s'élever par l'éducation et puis une plus grande justice sociale.
Mais quand on regarde les destins des deux écrivains, il y a quand même une similitude parce que Victor Hugo, premièrement dans sa vie, dans sa vie de jeunesse, était plutôt conservateur.
Ah, carrément.
Hein. Oui. Et Eugène Sue, on peut dire que c'était à peu près la même chose.
Ouais.
Et qu'ils ont terminé tous les deux dans une situation beaucoup plus sociale et même socialiste.
Oui, bien sûr. Ouais.
C'est un parcours assez similaire, en fin de compte.
Juste, je rajoutais, je crois que c'est Victor Hugo qui disait. Ouvrez une école et vous fermerez une prison.
Bien sûr. Voilà, c'était ça.
Voilà. Bon, on en est encore là.
Justement, autre thème dans Victor Hugo et chez Eugène Sue, c'est l'enfance quand même sacrifiée, quoi.
Oui.
Hein, puisque les enfants sont les victimes collatérales, hein, sont les plus grandes victimes, disons, de la misère, et notamment donc Gavroche. Cosette et éponyme aussi dans Les Misérables,
hein,
qui vont mourir. L'enfance est au cœur du drame et Hugo un petit peu l'idéalise. Et comme vous le dites, il croit, lui, que par l'éducation, on peut sauver, y compris, ou alors par la vertu chrétienne aussi.
Oui.
Hein, parce que Victor Hugo, c'est quand même ça. Oui. On peut,
moins chez Eugène Sue.
Moins chez Eugène Sue.
Voilà. Parce que Eugène Sue, il a été enterré en dehors de toute religion.
À Annecy, d'ailleurs.
Il a été enterré comme un indigent, en fin de compte. Et il était libre-penseur. Donc, en tant que libre-penseur, il n'était pas du tout question d'avoir une cérémonie religieuse.
Bien sûr. Victor Hugo, lui, a été enterré. Son cercueil a traversé Paris.
Oui,
un million de Parisiens.
Participants.
C'est quand même pas mal.
Oui, c'est quand même extraordinaire.
Un succès que n'a pas eu Eugène Sue, puisqu'il...
Enfin, il n'y a pas eu un million de personnes, mais il y a eu énormément de gens qui ont suivi son enterrement. Alors que les autorités voulaient qu'il n'y ait personne, mais le mot a été passé et on considère qu'il y avait peut-être entre 50 000 et 60 000 personnes quand il a été inhumé.
Ce qui est énorme.
Ce qui était énorme,
pour
puisque
bah,
c'était
pour
clandestin en fin de compte.
C'est Annecy, c'était pas non plus la capitale. Ouais.
C'était clandestin.
Voilà.
Est-ce gourdé rien qu'un instant la goualante du pauvre Jean que les femmes n'aimaient pas, mais n'oubliez pas, dans la vie il n'y a qu'une morale, qu'on soit riche ou sans un sou, sans amour on n'est rien du tout.
On n'est rien du tout.
Il vivait au jour le jour dans la soie et le velours, il pionçait dans de beaux draps, mais n'oubliez pas, dans la vie on n'est pas de balle quand notre cœur est...
Est-ce que on peut faire des liens entre Eugène Sue, son œuvre, et puis aujourd'hui notre actualité?
On en a parlé un petit peu là, avec les prisons, les écoles.
Les prisons, les écoles, ouais. Prisons surchargées et écoles un peu.
Et on va pas faire, on va pas aller chercher de l'actualité, mais quand on voit ce qui se passe au niveau géopolitique international. Vous parliez tout à l'heure des enfants, mais je pense qu'il y a des endroits où les enfants sont totalement pris en otage par la société humaine.
Ouais. Et par les violences, sociales, politiques, ethniques.
Voilà, ce qui est en train de se passer à Gaza, c'est quand même effarant par rapport à ces petits-enfants qui n'ont rien demandé à personne et qui sont détruits immédiatement, quoi.
Alors, ils sont victimes d'une autre forme de, disons, d'injustice.
Oui, oui.
C'est pas...
Et puis, on parle aussi, Eugène Sue et Victor Hugo parlaient d'inégalités. Je pense que les inégalités, elles sont loin d'être résolues dans le monde moderne.
Elles ont plutôt tendance à s'aggraver, d'ailleurs.
À s'aggraver, exactement.
Y compris en France, malheureusement.
Tout à fait.
Donc, il nous manque un Eugène Sue, un Victor Hugo, peut-être,
oui,
aujourd'hui.
Oui, peut-être.
Alors, on espère que le salon va pouvoir un petit peu raviver la mémoire de tous et puis se tourner, enfin, que les gens vont pouvoir découvrir ou redécouvrir Eugène Sue et peut s'y intéresser.
Vous nous donnez les dates?
Alors, le salon se tiendra le dimanche 5 octobre. Il sera ouvert au public de 10h à 17h. Nous accueillons plus de 70 exposants, des auteurs des maisons d'édition. Et puis, donc, sur la journée du salon, nous organisons un concours de peinture sur le motif, ouvert aux amateurs, aux professionnels et aux enfants. Toutes les animations qui sont menées dans le cadre du salon sont gratuites et ouvertes à tous.
À quel endroit va se tenir le salon?
Alors, au gymnase Lionel Turek et attenant au théâtre Sylvia Montfort à Saint-Brice.
Vous avez un site où on peut avoir tous ces renseignements? Comment on peut faire?
Oui, on a un blog.
Ouais.
Les arts s'enchaînent. Alors l'adresse exacte doit être lesarts.over-blog.com.
D'accord. On mettra ça sur la page du podcast. Voilà, notre émission se termine. Merci Geneviève.
Merci Didier.
Merci Jean-Claude.
Merci.
Un dernier mot?
Merci de nous avoir invités, de donner l'occasion de faire connaître cette personnalité remarquable qui était Eugène Sue et en quoi il est toujours d'actualité.
Oui, je ne peux rien ajouter à ce qu'a dit Geneviève. C'est ce qui est très bien de faire connaître Eugène Sue. Moi, je pense que c'est un personnage tellement, tellement formidable qu'il faut effectivement lisez Les Mystères de Paris.
D'accord. Et puis là, il y avait la biographie de Eugène Sue par Jean-Louis Borry.
Oui.
Alors Jean-Louis Borry, un personnage que certains n'ont pas oublié.
Oui.
Personnage assez fantastique.
Avoir un peu de bouteille quand même.
Un peu de bouteille. Et qui a fait les grandes heures, il y a longtemps, du Masque et de la Plume.
Oui,
entre autres.
Entre autres, oui.
C'était des morceaux d'anthologie.
Et puis on a parlé de lui pour d'autres raisons aussi.
Oui, voilà.
Elle n'a même pas 6 ans alors qu'elle doit se débrouiller. Elle passe près des passants, pas un seul regard de pitié. Un visage de petite fille, les yeux blessés par la tristesse. Un regard démuni et la peur de revoir sa mère. Dans les rues de la ville, on la voit tendre sa petite main. Disant d'une voix fragile, donnez-moi pour un peu de pain. La petite fille tremblante toute seule alors que ses gens passent. Pas un seul mot alors qu'elle pleure de douleur et de trace. Alors elle s'apprête à rentrer mais ses poches sont si vides.
Voilà, c'était Didier sur EDFM pour ce rendez-vous compte consacré aujourd'hui à l'écrivain Eugène Sue, que vous pourrez retrouver, si je puis dire, au salon Saint-Brice.
Salon du livre et du dessin.
5 octobre.
Le dimanche 5 octobre.
Dimanche 5 octobre.
Merci également à Marine. Marine Gauvin, notre illustratrice favorite et attitrée, qui une fois encore a croqué nos deux invités pendant que l'interview se faisait. Et on retrouvera ces magnifiques dessins sur le site d'IDFM, sur la page du podcast. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre avec une personnalité bien vivante celle-ci, mais qui a un destin hors du commun. Mais je vous retrouve également dimanche matin dans la matinale de Mehdi pour ma chronique Nec plus Ultra, au cours de laquelle j'essaye de vous faire redécouvrir des expressions issues de la mythologie grecque ou de la langue latine qui continuent à vivre dans notre langue d'aujourd'hui. À bientôt, à dimanche pour Nec plus Ultra et à jeudi prochain pour Rendez-vous compte.